Bonsoir. Fin de l'état d'urgence en RDC, le président Félix Tshisekedi a annoncé hier mardi la reprise progressive des activités après la restriction des libertés décidée depuis le mois de mars dernier pour freiner la propagation du coronavirus. Le chef de l'État a justifié la levée de l'état d'urgence par la baisse des cas de contamination et de la mortalité due au Covid-19. Ainsi, à partir de ce mercredi, bars, restaurants, cafés sont rouverts, écoles et universités rouvriront le 3 août, ports, aéroports et églises rouvriront leurs portes au public à partir du 15 août prochain. Que pensez-vous de la levée de l'état d'urgence par le chef de l'État? Que faire pour que la levée de l'état d'urgence n'occasionne pas une augmentation des nouveaux cas de coronavirus en RDC? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 22 juillet 2020. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats professeur Jean-Marie Kayembe, pneumologue. Il est responsable de la prise en charge médicale des cas de Covid-19 en RDC. Professeur Jean-Marie Kayembe, bonsoir.
Oui, bonjour.
Benoît Youlama, cadre du parti politique PPRD et membre du FCC. Monsieur Youlama, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Denis Singoma, directeur général du Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, Sénare Foncigle. Il est également coordonnateur de la dynamique citoyenne Covid-19, un réseau des organisations de la société civile sur le Covid-19. Monsieur Singoma, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes très nombreux auditeurs de Radio Capi à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Emma Lumami à Kabinda dans la province de Lomami. Le chef de l'État a fait sa part en décrétant l'état d'urgence pour une durée quand même assez raisonnable. À mon avis, je pense que la tâche revient maintenant à la population pour une bonne prise de conscience en respectant les gestes barrières, car chacun doit être police de lui-même afin de préserver sa propre santé. John Munganga, depuis la ville de Bouta dans la province du Bazouélé, il était vraiment nécessaire d'élever l'état d'urgence car l'économie du pays était au point mort. Il revient aux autorités provinciales de veiller au respect des mesures prises ainsi qu'à la population de prendre conscience pour éviter que l'on confine de nouveau. Merci de nous suivre à Bounia dans la province de l'Ituri sur la 104.9 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La fin de l'état d'urgence ne veut pas dire la fin de l'épidémie de Covid-19 dans notre pays. Par contre, c'est l'indication pour toute la nation de revenir progressivement à une vie normale tout en respectant un certain nombre de préalables par rapport aux mesures sanitaires. Propos de Félix Tshisekedi qui s'est adressé à la nation hier mardi tard dans la soirée, le président de la République a levé l'état d'urgence, une mesure qu'il avait prise en mars dernier pour freiner la propagation du coronavirus. Il justifie cette décision par une tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas durant le mois de juillet. Et dans son message sur la levée de l'état d'urgence, Félix Tshisekedi a insisté sur les respects stricts des mesures sanitaires que les autorités compétentes à tous les niveaux des responsabilités devront faire observer. Il a notamment demandé à tous les responsables de s'engager efficacement à renforcer la sensibilisation et la communication sur la maladie et sa prévention. On écoute Félix Tshisekedi, président de la RDC, dans cet extrait que nous propose Billy Yvon Lutumba.
Quant aux mesures qui doivent accompagner le retour progressif à la vie normale, j'instruis ce qui suit. À partir de ce 22 juillet 2020, la reprise des activités commerciales, magasins, banques, restaurants, cafés, bars, entreprises, etc., la reprise des rassemblements, réunions et célébrations, la reprise des transports en commun. À partir du 3 août 2020, la reprise des écoles et des universités, en commençant par les classes et promotions terminales. À partir du 15 août 2020, la réouverture des églises et lieux de culte, la reprise des mouvements migratoires interprovinciaux, l'ouverture des ports, aéroports et frontières, la réouverture des discothèques, stades et salles de spectacle. Toutefois, pour les funérailles, les dispositifs actuels restent maintenus et doivent être de stricte application. Dans ce contexte, il sied de préciser que les modalités pratiques de reprise dans les différents secteurs seront déterminées par les autorités nationales, provinciales et locales compétentes.
C'était là le président Félix Tshisekedi. Docteur Jean-Marie Kayembe, je rappelle que vous êtes pneumologue et responsable de la prise en charge médicale de cas de COVID-19 en RDC. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de l'état d'urgence par le chef de l'État? Le moment est-il bien choisi?
Oui, je commence par marquer la pertinence même du discours du chef de l'État qui parle d'une levée progressive et responsable de l'état d'urgence, dicté sans doute comme à travers le monde entier par la presque récession économique et psychologique qui entraîne un collapsus de toute l'activité humaine, économique, etc. Je partage totalement ce point de vue de nos décideurs et le chef de l'État a insisté sur la responsabilité au niveau de l'opérationnalisation. Le gouvernement central, les provinces avec les dirigeants de ces provinces, les institutions académiques, etc., avec ceux qui les dirigent, chacun en ce qui le concerne, devrait ou doit s'investir pour une meilleure application des mesures barrières. C'est cette responsabilisation et prise de conscience qui pourra nous aider à éviter de nouveau de replonger dans des considérations difficiles.
Professeur Jean-Marie Kayembe, vous qui êtes dans l'équipe de la Riposte, le chef de l'État a justifié la levée de l'état d'urgence par la baisse des cas des contaminations et de la mortalité due au COVID-19 en RDC. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que la tendance aujourd'hui est à la baisse?
J'apprécie votre question qui parle de tendance. Qui dit tendance dit progression vers. Vous avez aujourd'hui, en suivant France 24 comme moi-même, remarqué qu'on avait 500 cas nouveaux en France, par exemple, dans des clusters bien définis. Le chef de l'État reçoit les informations que nous, équipe technique, lui fournissons. Oui, effectivement, ces derniers moments, on voulait montrer tous les jours un nombre un petit peu plus important d'écrits parce que l'information arrive et nous provient de la base, vraiment de la communauté. Le taux de létalité qui de 11% début mars est aujourd'hui 2,3%, sans devoir l'imputer à une quelconque recette magique, quelle qu'elle soit, c'est la conjugaison de plusieurs facteurs. L'application, quoique encore hésitante, des mesures barrières, l'appropriation de la lutte par les acteurs de santé au niveau de nos zones de santé, etc., la responsabilisation qui ne doit pas cesser de la communauté, oui, ces jours-ci, réellement, le chef a eu raison de le dire, nous assistons à une sorte de ralentissement tout de même de la détection de nouveaux cas. Bien sûr, la couverture n'est pas encore vraiment une couverture de masse, mais la tendance, voilà pourquoi le mot est important, et elle est là.
Dans son discours, le chef de l'État n'a pas mis l'accent sur les mesures d'accompagnement pour faire respecter ces gestes barrières. Vous qui êtes de l'équipe de la Riposte, comment pensez-vous que cela devrait se passer concrètement?
À moins que nous n'ayons pas suivi le même discours, mais moi j'ai entendu le chef rappeler les différentes principales mesures barrières, dont la distanciation sociale, le port de masque, laver les mains. Je l'ai entendu répéter de nouveau le gel hydroalcoolique. La répétition est la mère des sciences. Mais là où n'existe pas une certaine répression, le relâchement est la conséquence quasi inéluctable d'eux. Aidons-nous à nous aider tous en adoptant des attitudes responsables, avec de toutes les façons une petite dose de surveillance mutuelle, surveillance par la communauté et par ceux qui ont qualité éventuellement de faire respecter les décisions. Pas quand le chef de l'État dit les provinces, le niveau central doivent s'occuper de l'applicabilité de la chose, je suppose que cela sous-entend également comment contrôler, comment faire appliquer ces mesures. Nous apprenons les uns des autres.
Professeur Jean-Marie Kayembe, ne faudrait-il pas, par exemple, craindre qu'avec la reprise de vols interprovinciaux, que les provinces qui étaient jusque-là épargnées par la pandémie puissent être touchées?
Madame, la crainte existe, mais là, le secrétariat technique, organe technique de conseil des décideurs, a pris des dispositions. Ces vols ne sont pas ouverts n'importe comment, il y a des conditions. La personne qui voyage doit justifier notamment une réalisation d'un test, et là on a pris des dispositions pour que l'INRB puisse valider les tests qui sont réalisés à des endroits qui seront indiqués et des horaires pour éviter les attroupements qui seront préjudiciables. À côté des tests, c'est clair, les compagnies de transport recevront de l'organe de transport des exigences pour que soit contrôlée la température, pour qu'il y ait des gels hydroalcooliques, et bien sûr, les mesures de lavage de main, etc., dans les ports, les aéroports, les stations, etc., pour minimiser le plus possible le poids de cette pandémie et l'application de toutes ces mesures et la discipline qui nous y aideront.
Nous apprenons, professeur Jean-Marie Kayembe, vous allez confirmer ou infirmer cette information que pour toutes les personnes qui souhaiteraient voyager, ils devront passer un test qui sera payant $30 pour le test pour tout voyageur.
Oui, je dois vous avouer que c'est un travail supplémentaire qui est demandé aux équipes de surveillance en temps normal. Il est tout à fait compréhensible que le travail supplémentaire un recours à plus de bras. Et utiliser des tests à cette fin-là aussi, c'est s'équiper de nouveau en un temps nécessaire pour la réalisation de ce travail de laboratoire. Je pense qu'avec une explication claire, une communication, tout le monde disposé comprendra.
On ne vous suit pas très bien, docteur Jean-Marie Kayembe. Est-ce que vous pouvez bouger pour améliorer la qualité de la ligne?
Allô?
Oui, docteur Jean-Marie, vous disiez?
Je disais donc que tout le monde peut comprendre avec une bonne communication.
La qualité de votre ligne n'est pas très bonne, alors que les auditeurs ont vraiment besoin de la réponse à ma question, docteur Jean-Marie Kayembe. Est-ce que vous m'entendez? On a perdu Dr Jean-Marie Kayembe. La réalisation va essayer de le retrouver. En attendant, on va prendre Benoît Youlama, qui est cadre du parti politique PPRD et membre du FCC. Benoît Youlama, comment vous avez accueilli le message du chef de l'État levant l'état d'urgence?
Nous avons accueilli avec satisfaction la mesure qui a été annoncée par le président de la République. Et nous, en tant qu'acteurs politiques et membres de la coalition, nous avions souhaité que cela se fasse depuis le mois passé. Et heureusement, bien qu'en retard, le président a amené ce discours, un discours qui a annoncé aussi d'autres mesures, et notamment ce qui concerne l'autoprise en charge de Congolais et qui doivent éviter la contamination, mais qui doivent aussi lutter pour que cette contamination n'aille pas très loin. Et nous saluons cela et nous avons accepté avec beaucoup de joie la mesure qui a, sur le plan social et économique, entraîné une joie immense dans l'opinion publique congolaise, puisque vous le savez que nous avons une économie totalement informelle où les gens ne vivent qu'au quotidien et lorsque les gens passent 2, 3, 4 mois sans travailler. Certainement, des familles sont en difficulté, mais aussi même l'économie nationale n'arrive plus à tourner du fait de l'absence de recettes dans les trésors publics. Donc, nous pensons que c'est une mesure qui est bien arrivée. Mais nous aussi, en tant que citoyens, en tant qu'êtres humains, nous devons absolument travailler pour permettre à la République d'arriver à venir à bout de la maladie, bien que la maladie n'a pas encore un vaccin solide, n'a pas encore de solution définitive. Mais nous, si nous respectons ce qui est déjà prévu par le pouvoir public, je crois que nous allons atténuer la pression de la maladie sur le plan purement national. Mais je voulais aussi réagir par rapport à la dernière question que vous aviez posée au professeur en charge du comité de lutte contre le Covid, c'est que sur le financement, que l'autofinancement que voudrait se créer ce comité, nous estimons que ça risque d'être une échelle de plus par rapport à notre population. Il y a des Congolais qui ont été bloqués dans certains coins, à Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, qui n'ont même plus rien à vivre, qui risquent même de rentrer sans même un sou dans leur poche. Mais alors, comment on va taxer ces gens-là, puisqu'ils vont prendre l'avion? Comment on va les taxer alors que l'État est là, et un peu partout ailleurs? Le professeur a fait allusion à la France. C'est l'État qui prend en charge presque la plupart des frais. Alors, il y a ajouté des frais. C'est une charge de plus pour notre population qui a connu des situations difficiles et qui continue encore à connaître des situations difficiles. Et je crois qu'il faudrait que rapidement les gouvernements puissent réagir et qu'on supprime carrément cette taxe et la mettre peut-être sur le plan international où ceux qui ont des ressources, ceux qui voudraient venir au Congo, puissent payer un 20, peut-être un 10, un 20 dollars. Mais arriver à 30 dollars pour justifier qu'il y a l'air supplémentaire, alors tout ce qu'il y a eu comme donation, tout ce qu'il y a eu comme décaissement du trésor public a servi à quoi? Et donc nous pensons qu'à ce niveau-là, il faudrait que l'État soit un peu plus regardant. Ce n'est pas au comité de se décider et de prendre des mesures qui relèvent de la compétence du gouvernement national. Et nous pensons qu'il faut absolument travailler dans ce sens-là. Et sur le volet de la sensibilisation, je crois que à Kinshasa, nous avions observé qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la Tchango, où les gens n'ont jamais respecté les conditions hygiéniques qui leur ont été imposées par le pouvoir public. Et Tchango, ça n'a pas été facile. Même le dimanche, les gens sont entassés en milliers. Et donc cela doit nous interpeller pour continuer à éduquer notre population, continuer à favoriser le dialogue avec la masse, puisque certains médias ont déformé l'information et la compréhension n'est plus la même. Et donc si nous ne faisons pas attention dans certains coins, tels que les Tchango et Kinshasa, nous risquons de connaître une contamination encore plus rapide et qui risquerait d'emporter plusieurs milliers de nos compatriotes. Alors, et sur le plan encore purement au niveau des partis politiques, le président lui-même a été un peu consécutif avec son parti politique, le parti présidentiel, qui n'a pas respecté la mesure d'hygiène, qui a violé de la manière que tout le monde connaît, et même le regroupement la MOCA. Heureusement, nous, du côté FCC, PPRD, nous avions respecté, on n'a pas marché. Mais alors, est-ce que les calculs, même que le professeur semble être un peu rassuré ou rassuré dans son propos, mais les gens qui ont été contaminés pendant ces marchés, je ne sais pas si le professeur peut nous donner les statistiques aujourd'hui. Je crois que nous avons tous la responsabilité, bien que la mesure a été levée, mais je crois que si nous voulons vivre longtemps, exister encore comme humains, nous devons nous-mêmes nous prendre en charge, éviter ce qui est potentiellement ce qui peut conduire à la contamination et accepter ce qui peut nous éviter la contamination. Je crois que c'est ce qui peut nous sauver, mais au moins nous insistons sur l'éducation, la sensibilisation, tous ces enjeux qui crient tous les jours. Je crois que c'est le moment de les revoir sur le terrain et de continuer à crier seulement sur les droits de l'homme, alors que ces droits constituent aussi sont dans la notion de l'éducation. Donc si on n'arrive pas à éduquer, sincèrement, je crois que la situation risque d'avoir une autre ampleur que celle que nous avons aujourd'hui. Et nous félicitons l'équipe qui a travaillé, mais nous estimons qu'il faut beaucoup encore du travail. Il faut se concentrer sur la partie Tchango et une grande partie vers le Congo central, parce que ailleurs, la situation, Bazuele, Lumami, ça peut encore aller. Mais la situation de Kinshasa risque d'entraîner des milliers de morts, et surtout, là où les gens n'arrivent pas à se faire consulter régulièrement. Voilà ce que je peux vous dire, madame.
Merci, Benoît Yulama. On me signale que le professeur est en ligne. Professeur Jean-Marie, pourquoi vous demandez aux gens de payer 30 dollars, aux voyageurs surtout, de payer 30 dollars pour toute personne qui aimerait voyager?
Madame, j'ai entendu notre ami du FCC qui venait de parler tout à l'heure, qu'il m'excuse si je n'ai pas retenu le nom.
Yulama, Benoît Yulama.
Ah ok, merci beaucoup. Je pense qu'il n'appartient pas, il l'a si bien dit, au comité technique de décider du paiement et surtout du montant à payer, que je ne connais pas. Moi, aujourd'hui, apparemment, lui et vous, vous savez déjà qu'il s'agit de $30. Ceci dit, je dis que ça s'est justifié par le surcroît de travail. Pensons un petit peu à tous nos amis personnels soignants de France aujourd'hui qui bénéficient d'une rallonge salariale exigée et comprise par tous. Cela est dans la communication qui doit être importante. Et la lutte contre la COVID-19 ne devrait pas être abandonnée à la seule, au seul secrétariat technique qui n'a sûrement pas des épaules très larges pour la supporter. On le propose d'abord parce que, surtout les vols à l'extérieur, ce n'est pas n'importe qui chez nous va à l'extérieur. Il y a déjà une taxe aéroportuaire, mais ces examens en express exigent jour et nuit. Il y aura des équipes pour se faire, que les gens puissent se sacrifier de cette manière-là. Sans ici méconnaître l'appui de nos partenaires et même de notre gouvernement, en tant que conseil technique, nous avons élaboré des algorithmes qui nous permettront de ne pas perdre du temps. Le but ultime n'étant pas de faire payer ou pas faire payer, mais surtout de protéger le voyageur vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de l'endroit où il va. C'est pour ça que l'importance des mesures barrières, gel hydroalcoolique, température, etc., sont également en ligne de mire est très importante avant de ne considérer que ce paiement qui, à mon humble avis, doit se discuter. On doit échanger autour de tout cela.
Merci, professeur. On vous garde encore dans cette émission. Le temps pour nous de prendre Danny Singoma, qui est directeur général du Centre national d'appui au développement et à la participation populaire. C'est la réponse sigle. Il est également coordonnateur de la dynamique citoyenne COVID-19, un réseau des organisations de la société civile sur cette pandémie. Danny Singoma, comment vous avez analysé ou accueilli la levée de l'état d'urgence par le chef de l'État?
Ok, merci madame de la parole. Bon, nous, au niveau du SENADEP et de la dynamique COVID de la société civile, d'abord, nous avons accueilli avec beaucoup d'intérêt cette levée de l'état d'urgence, mais aussi avec beaucoup de précautions, parce que nous savons, comme ont dit mes prédécesseurs, et comme a dit le président de la République, que la maladie n'est pas finie. Mais nous nous inquiétons quand même au niveau de la société civile. Dans notre temps, ce qu'a dit mon monsieur Yolama, qui dit que nous crions beaucoup, je lui pardonne cette parole, mais nous, au niveau de la société civile, nous avons pensé qu'il y a eu beaucoup de préalables qui n'ont pas été accomplis avant la levée de cet état d'urgence. Et qu'on a pris la levée de l'état d'urgence simplement sous l'angle d'abord plus purement économique plutôt que social. Et ça, c'est plus... pour nous, ça nous dérange quand même parce que le gouvernement, sachant qu'il n'a pas les moyens de pouvoir soutenir la population et atténuer les impacts, il les remet au travail, il remet tout le monde à ses activités, disant qu'ils se débrouillent, ils vont trouver les moyens de leur survie, alors que le gouvernement n'a pas mis en place vraiment des mesures qui permettent de soutenir la population. Quand on parle des mesures économiques, ou bien quand on parle des aspects économiques qui ont guidé et ou bien qui ont milité quelque part à la levée de l'état d'urgence, on ne voit que l'angle macroéconomique, on ne voit pas toute cette population, ces porteurs de l'économie informelle, qui ont beaucoup souffert des mesures et des restrictions de mouvements et d'activités économiques. Il y a tous ces gens qui travaillent dans des petits bars, dans des petits restaurants, et ces mamans qui sont dans l'économie informelle et tout ça, qui ont beaucoup souffert. Quand on parle des mesures d'atténuation, on s'intéresse beaucoup plus aux PME, aux grandes PME, aux grandes entreprises, aux grandes industries. C'est à eux que les mesures, c'est pour eux que les mesures sont prises, mais on oublie que vraiment un grand pourcentage de la population vit de l'économie informelle et de ces petits métiers et des familles entières en dépend. Maintenant, que
Vous dites que beaucoup de préalables n'ont pas été pris en compte pour décider de la levée de l'état d'urgence. Quels sont ces préalables, Danny Singoma?
Oui, bon, les préalables, notamment les préalables de la communication. La communication n'a pas été très bonne. La population n'a pas été bien préparée pour accueillir la levée de l'état d'urgence. Parce que dans l'imaginaire populaire, la levée de l'état d'urgence, ça veut dire la fin de la maladie. Alors, bien sûr, le président de la République a martelé sur cela, mais c'est quelque chose qui devait commencer bien avant. Ici, la communication, nous dénonçons toujours la communication. La communication, la façon qu'elle est faite, elle n'est pas vraiment une communication de proximité. On dirait que la communication est faite pour les partenaires internationaux, pour les partenaires des bailleurs de fonds, pour qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose qui est fait en RDC. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui devaient être dites pour que les gens comprennent effectivement et que cet imaginaire collectif, populaire, puisse disparaître pour dire qu'il n'y a pas de maladie, parce que beaucoup de gens, il y a mon prédécesseur qui a dit à Tchangou et ceci, ce n'est pas seulement à Tchangou, c'est partout dans le pays où les gens comprennent, ne comprennent pas effectivement que la maladie est là, et c'est un sursaut de joie hier d'apprendre que la levée de l'état d'urgence a été proclamé et les gens se disent ok, tout revient à la normale, et la maladie, ils nous trompaient, maintenant ils sont arrivés à bout, nous pouvons continuer. Donc il y a ce préalable qui n'a pas été atteint. Deuxième préalable, comme je l'ai dit, c'était effectivement de mettre en place des mesures pour atténuer les impacts, non pas simplement sur les plans macroéconomiques, mais sur aussi les plans de l'économie informelle. Il n'y a pas eu un travail à fond sur cela, pour voir comment on prépare la population à reprendre ses activités, comment ils sont accompagnés, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des grands préalables qui n'ont pas été atteints. Et puis en plus de cela, il y a toute cette question de dépistage. Il y a beaucoup de gens qui, la question de dépistage continue à poser problème. C'est bien que le gouvernement ait accéléré et amélioré la façon de dépister, mais aujourd'hui, ça pose encore problème. Le temps que prend le dépistage. Et la personne doit retourner dans la communauté. On ne sait pas si elle a été infectée ou si elle n'est pas infectée, comment elle va se comporter. Et maintenant, avec la levée de l'état d'urgence, ça sera encore pire. Donc, il fallait que le gouvernement organise effectivement, en plusieurs lieux du pays, des centres de dépistage massifs de la population. Je ne sais pas si le docteur peut me contredire à ça. Moi, je ne suis pas spécialiste dans ces maladies. Mais je pense, selon moi et selon ce que nous sommes en train d'imaginer au niveau de la société civile, qu'il fallait effectivement qu'on puisse accentuer les dépistages, qu'ils soient des dépistages de masse pour qu'on puisse comprendre où il y a la maladie et pas. Et à l'intérieur du pays, il y a des endroits où on retrouve des endroits isolés où les gens sont porteurs de maladies, mais ils n'ont pas été dépistés, ils sont dépistés au thermomètre, on nous dit qu'il y a des cas asymptomatiques, donc ils peuvent rester avec la maladie et puis après qu'on ait des vagues extraordinaire par-ci par-là en dehors de Kinshasa. Et Kinshasa ne soit pas la vitrine simplement de la réussite dans la lutte contre la COVID, mais qu'on voit le pays tout entier et les gaps qu'il y a par-ci par-là pour les combler. Mais de toutes les façons, la levée de l'état d'urgence était nécessaire pour permettre aux gens de reprendre leurs activités, mais comme j'ai dit, il ne faut pas que ça soit considéré simplement sur les plans économiques, mais que ça soit considéré sur tous les plans de restriction des libertés et aussi sur le plan de l'amélioration des conditions sociales.
Professeur Jean-Marie Kayembe et Xavier Safeli qui nous écrit depuis Lubumbashi, qui dit ceci, justifier la levée de l'état d'urgence par la baisse des cas de contamination serait incorrect. 91 cas confirmés avant hier et hier. Le Covid est très loin d'être sous contrôle dans notre pays. Bon nombre de tenanciers des bars, terrasses, cinémas fonctionnaient bien au vu et au su de tout le monde et l'état ne faisait rien.
Oui, mon frère de Lubumbashi, je me dois de dire que je ne saurais sûrement pas m'avancer avec autant de certitude, tant il est vrai que je sais qu'une maladie nouvelle comme celle-là nous invite tous à beaucoup d'humilité et surtout à apprendre les uns des autres. Il parle un jour de 91 cas. Combien y en a-t-il eu avant et qu'est-ce que nous savons de demain? Quelle est notre capacité à dépister réellement tant d'interrogations qui demeurent. Par contre, pour répondre directement à l'ami de la société civile qui parlait des personnes qui peuvent être asymptomatiques, etc., nous comprenons de mieux en mieux, sans tout savoir, comment évolue cette maladie, comment évolue l'immunisation de la population, etc. On sait qu'une personne qui a des symptômes ou qui ne l'est pas, dans les 14 jours, voilà pourquoi il y a la quatorzaine d'isolement. Discipline individuelle. Lorsqu'on a été en contact à risque et qu'on reste, on a son masque d'abord, parce qu'on peut développer entre-temps des symptômes et contaminer les autres. Déjà sur les 14 jours, l'immunité naturelle peut jouer et permettre à l'individu qui n'a pas de signes d'éliminer éventuellement le virus et d'être moins infectant. Il y a déjà ces aspects-là que l'on connaît. Et s'agissant du dépistage de masse, etc., Oui, nous devons ici remercier le gouvernement de la République qui a mis à notre disposition, même si là encore le grand consensus n'est pas encore atteint, des tests rapides sérologiques, antigéniques, etc. Nous utilisons les tests rapides. J'ai parlé d'un certain profil d'interprétation pour éviter soit le triomphalisme, soit de passer avec des tests qui parfois une sensibilité qui n'est pas très forte, des spécificités, etc. Nous donnons, nous utilisons, nous recourons pour le dépistage de masse à ces tests rapides-là qui, dans certains cas de figure, justifient une confirmation éventuellement par les tests moléculaires. Ce sont des démarches que nous entreprenons en tant que conseil technique, mais qui n'ont pas forcément à prendre le dessus dans un débat public qui nécessite que l'information soit apportée. Je suis tout à fait d'accord pour dire, faisons et ensemble un effort important de sensibilisation en disant que c'est l'affaire de tout le monde.
Professeur Jean-Marie Kayembe, nous apprenons aussi que le centre qui était ouvert au stade des Martyrs va fermer ses portes le 25 juillet. Est-ce que vous confirmez cette info?
Ce centre a été ouvert pour un certain délai. Comprenez aisément, ce centre a mis à disposition des moyens, des kits de prélèvement, des écouvillons, etc., qui étaient analysés à l'INRB. C'était un exemple d'un centre de dépistage de masse. Mais que faisons-nous au secrétariat technique? Les données de ce centre ne sont pas allées. Comme ça, il a été ouvert pour une période. Nous allons évaluer les données récoltées à partir de ce centre de dépistage de masse. Si, d'elles, les évidences nous apprennent que ce centre a apporté vraiment un plus, mais cette expertise pourra être transplantée directement à nos provinces qui, certaines n'ont pas encore été touchées, et d'autres un petit peu moins que Kinshasa à l'heure actuelle.
Merci.
L'expérience des uns nous aide à progresser.
Benoît Youlama, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Moi c'est Henri Kassoumoulin depuis Kisangani dans la province de la Tchop. Nous saluons cette levée de l'état d'urgence, mais ce que nous craignons est que cette levée n'a pas de mesures d'accompagnement. Aucune disposition n'a été prise avant cette levée de l'état d'urgence. Donc, si le gouvernement ne fait pas attention, nous risquerons de tomber encore dans une situation où nous aurons des cas à enregistrer chaque jour.
Benoît Youlama.
Oui, je crois que la préoccupation de notre compatriote de la Tchopo est tout à fait fondée et je la partage. Et en écoutant le professeur qui est membre de ce comité, et je crois qu'il y a des assurances que le comité va continuer à travailler et là où la population n'a pas été atteinte, le comité va déployer ses techniciens pour que les techniciens fassent le travail sur le terrain. Et donc il y aura des pistages, il y aura des mesures d'accompagnement, mais là il ne dit pas clairement, c'est pas un accompagnement purement technique, c'est probablement financier, mais il y a des difficultés et quant à ça, étant donné que notre pays a une économie à plus de 80% qui fonctionne à l'informel et les gens ne paient pas d'impôts, les gens n'arrivent pas à apporter leur contribution au trésor public et même si l'État devait distribuer de l'argent, je ne crois pas que ce sera facile, on risque de donner l'argent à n'importe qui et aux gens qui n'ont pas souffert des conséquences des mesures qui ont été prises par l'autorité publique. Mais nous pensons que c'est nous-mêmes, Congolais, qui devons nous prendre en charge. J'insiste sur cette notion, étant donné que la sensibilisation a failli à un certain niveau et que nous devions ensemble travailler pour que chacun dans son petit foyer, à l'école, à l'université, un peu partout, que chacun arrive à passer le message que la maladie est vraie, elle est là, elle est réelle. Et à Kinshasa, il y a eu des cas de violation, bien que nous ayons plus d'une centaine de chaînes de télévision et de radio. Mais alors, si là où il n'y a pas suffisamment de médias, les gens continuent encore à douter. Et donc, leur doute est tout à fait fondé et ils estiment qu'ils ne sont pas accompagnés. Donc, c'est à l'État, au pouvoir public, d'assurer, notamment le ministère de la Santé et le ministère de la Communication. Donc, ils doivent travailler que rester dans le discours type communication exporté. Alors, cela n'est pas tout à fait bien. Nous pensons qu'il faut travailler, il faut aider les Congolais à comprendre que la maladie est réelle. Et si on ne fait pas attention, on va mourir. Et si
donc
on meurt, il n'y a
donc,
plus d'avenir pour la suite.
Vous insistez donc sur la sensibilisation.
Et continuer à dire à notre population et à nos compatriotes qui sont dans la vie.
Vous insistez donc, Benoît Yulama, sur la sensibilisation et la communication. Mais est-ce que vous pensez que la mesure de l'état d'urgence a contribué à freiner la propagation du coronavirus en RDC?
Oui, pas l'état d'urgence comme tel, madame, mais je crois qu'il y a eu... une erreur sur le plan médiatique et sur le plan international qui a secoué certains esprits sur le plan local, et on voyait des morts en Espagne, en Italie, en France, aux États-Unis, et les gens se sont dit si ceux qui ont la technologie la plus appropriée pour soigner la maladie n'y arrivent pas, et donc si nous ne faisons pas attention, nous risquons de nous liquider aussi. C'est cet élément qui a beaucoup influé sur le comportement du Congolais, mais je ne crois pas que sur le plan local, la communication a été appropriée, et je continue à demander que ceux qui ont le moyen de l'État de pouvoir le faire, et qu'ils le fassent rapidement, et qu'on n'entende pas que nous ayons dans une ville comme Kinshasa un cas de contamination peut-être qui passe de 2 à 15, et que demain nous ayons 3, 4, 5, 10 millions de contaminés à Kinshasa, sinon nous risquons d'avoir une ville sans population.
Merci.
Et je crois qu'il faut que nous puissions travailler. Puisque, si j'insiste sur la Tchango, puisque j'étais sur le terrain, madame, et je connais ce qu'elle est en train de dire, le professeur ne pourra pas me contredire, et Tchango, pour Tchango, c'est comme si la maladie n'existait pas. Donc, c'est comme
merci,
si quelqu'un disait que le sida existait, et vous dites que le sida n'existait pas.
Vous l'avez dit,
si on a
vous l'avez dit,
cette
vous l'avez déjà dit.
On l'a informé totalement, et je crois qu'on ne connaîtrait pas cette hésitation, ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui.
Merci. Danis Ngoma, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Badolité.
Salut Radio Capis, c'est Pascal Libondolomé depuis la ville de Badolitz. Nous saluons la mesure décrétée par chef de l'État en mettant fin à l'état d'urgence. Mais maintenant, l'heure est à la prise de conscience collective de chacun de nous afin que nous puissions remettre à nil les efforts déjà consentis par les gouvernements et par les partenaires internationaux et locaux. Il est important aujourd'hui que les gens se remettent au travail afin de sauver l'économie qui est déjà à genoux. Et nous devons nous donner maintenant à l'auto-sensibilisation afin que nous puissions mettre complètement fin à cette pandémie de la COVID-19 sur le territoire national.
Danis Ngoma, après la levée de l'état d'urgence, l'heure est à la conscience et à la vigilance de chacun, selon Pascal Limbondo qui nous a appelé depuis Badolité.
Oui, effectivement, madame, aussi, je remercie les intervenants de Badolité pour ce qu'il a dit. Nous marchons vraiment dans ce qu'il a dit. Il faut une conscience collective, ça c'est vrai, et tout le monde le dit et le répète. Et je pense que pour la survie de chacun, nous devons nous impliquer. Simplement, comme je l'ai dit encore, cette conscience collective doit être motivée par les actions qui doivent être menées par le gouvernement, notamment en ce qui concerne la communication, et tout le monde et répète la même chose, c'est une bonne communication pour permettre aux gens de s'impliquer. Et aussi, éviter de faire voir que, comme c'est interprété par plusieurs personnes, comme si c'était un business. Il ne faut pas que la COVID soit interprétée comme un business, qu'on sente que ceux qui sont dans la riposte, ce sont eux qui ont des moyens, ou qu'on voit tout ce qui est mobilisé comme moyen, sans aller directement à l'atténuation des impacts, mais simplement pour comme dans les actions humanitaires et tout ça. D'accord, c'est ça qui doit être fait. Et puis après, il faut aussi tout le soutien à toute l'équipe qui a travaillé dans cette riposte, le personnel de santé, les militaires et autres choses qui ont été mal pris en charge. Il est éclairant de voir que dans un pays comme le nôtre, les ministres justifient qu'il a acheté des ambulances mais qu'on n'a pas payé les personnels. On a vu pendant un certain temps les gens passaient des barrières en corrompant même ceux qui étaient là. Donc il ne faut pas que cela soit fait, il faut qu'effectivement la conscience soit soutenue par une action de communication et d'atténuation des impacts.
Danis Ngoma, comment prévenir toute nouvelle flambée des cas pouvant compromettre tous les efforts collectifs de contrôle de cette pandémie?
Bon, mes prédécesseurs l'ont dit, je pense la conscience est une première chose. Et il faut soutenir ceux qui doivent mettre en place ces mesures barrières. cela peut nous aider aussi à contenir. Parce que vous allez vous retrouver hein, qu'il y a par exemple des structures qui ne sont pas nécessairement commerciales, mais de certains bureaux où les gens doivent entrer, et ils ont mis en place des gels hydroalcooliques ou un bassin d'eau, et qu'il n'y a plus d'eau, il y a coupure d'eau, on ne sait pas alimenter les bassins, on ne sait pas acheter chaque jour les gels, on n'a pas de papier pour s'essuyer les mains, et finalement, il y a tout ça qui sont des problèmes. Donc il faudra aussi des mesures de soutien à ceux qui doivent appliquer des mesures en plusieurs endroits, et il faut que l'exemple puisse partir de partout dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que si on ne fait pas ça, je pense que les gens vont négliger, et par simple négligence, on peut attraper la maladie parce que simplement on a oublié une fois de se laver les mains ou on n'a pas eu la capacité de désinfecter un lieu public ou un transport en commun.
Merci Danny Singoma. On va considérer cela comme votre conclusion parce que nous sommes à la fin de notre émission. Je rappelle que vous êtes directeur général du Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, c'est la REP en sigle, mais également coordonnateur de la dynamique citoyenne COVID-19, un réseau des organisations de la société civile sur le COVID-19. Professeur Jean-Marie Kayembe, que faire pour que la levée de l'état d'urgence n'occasionne pas une augmentation des nouveaux cas du coronavirus en RDC?
Madame, il faudra appliquer soi-même et faire appliquer les mesures barrières par un comportement responsable, par, et tous les amis l'ont dit, une sensibilisation sans se fatiguer de toutes nos populations, à partir de nos familles, etc. Donc, ensemble, debout, sensibilisons, appliquons et faisons appliquer les mesures barrières. Il n'y a pas 36 façons d'y parvenir.
Merci. Professeur Jean-Marie Kayembe, pneumologue et responsable de la prise en charge médicale des cas de COVID-19 en RDC. Benoît Youlama, cadre du parti politique PPRD et membre du FCC, votre conclusion?
Ma conclusion est très simple, madame. Je crois que notre population doit continuer à faire confiance aux institutions de la République et à la structure qui est habilitée à lutter contre la COVID. Et nous pensons que si chacun de nous sensibilise dans sa famille, dans son milieu professionnel et éducationnel, je crois que nous pouvons atténuer la pression de la maladie. Mais nous ne pouvons pas aussi nous laisser emportés par des rumeurs. Nous devons prendre l'information à la source et nous confier à ceux qui en ont la capacité et les professionnels pour pouvoir nous communiquer. Puisque la communication a ses défauts, mais sans communication aussi, nous pouvons disparaître tous. La maladie est là, prenons conscience et luttons contre la maladie.
Merci Benoît Youlama, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Guimaté, Dona Madimba sous la supervision d'Axel Goncho. Merci à Polydor Basunga qui était à la prise des sons, présentation et coordination Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Prenez soin de vous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.